question dont la réponse en étonnera sûrement quelques-uns. Est-il possible d'être sauvé et de ne produire aucune bonne œuvre? Le grand livre de Dieu va nous aider à comprendre ce qu'est la véritable foi aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, si vous voulez apprendre ce qu'est une vraie Église du Seigneur Jésus, je vous encourage à bien écouter l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui au cours de l'émission, alors que le livre de l'Apocalypse répondra aux questions que voici. Est-il possible de perdre son salut? Qu'est-ce que ça signifie quand le Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises? Le Seigneur Jésus a-t-il fait des reproches à l'Église de Philadelphie? Qu'en est-il de cette ville aujourd'hui? Jésus était-il saint à sa naissance et à sa mort sur la croix? Est-il le roi de l'univers? Aujourd'hui, quelles sont les églises qui ressemblent à l'église de Philadelphie mentionnée dans l'Apocalypse? Est-ce qu'on peut douter de la validité, de la sincérité de la foi d'une personne qui ne produit aucune bonne œuvre? Restez des nôtres, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle affirme en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci de nous donner la prière, de nous donner accès à toi, peu importe l'heure du jour, peu importe l'endroit où on est. En ce moment même, Seigneur, on vient te demander, dans ta bonté, de toucher nos cœurs par ta parole, de nous enseigner des choses qu'on n'a jamais connues avant, de te faire mieux connaître à nous pour qu'on puisse te servir, toi, le seul Dieu vivant. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, le Seigneur Jésus-Christ dressait un bilan peu reluisant de l'Église de Sardes. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Le problème était simplement celui-ci. Cette Église ne portait pas de fruits. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se trouvent dans la même situation. Leur prétendue foi ne produit pas les bonnes œuvres escomptées. Toutefois, le tableau n'est pas complètement noir. Un salut inaltérable. Chers amis, débutons la lecture de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 5. « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra ne triomphera pas par ses propres forces, moyens ou habileté, mais par le sang de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ fait ensuite une déclaration qui a causé certaines difficultés d'interprétation. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dans les généalogies bibliques, il est intéressant de noter deux livres explicitement identifiés. Premièrement, le livre de la généalogie d'Adam, dans Genèse chapitre 5, verset 1. Nous sommes tous dans ce livre, mais ce livre est un livre de mort. Deuxièmement, nous avons le livre de la généalogie de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, l'expression « livre de généalogie » est inhabituelle. Elle se rencontre seulement par rapport à Adam et par rapport à Jésus-Christ. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ est le livre de vie. Je crois que tout homme voit son nom inscrit dans ce livre par la foi en Jésus-Christ. Vient alors la question suivante. Est-il possible qu'un nom inscrit dans le livre de vie soit ensuite effacé? En d'autres mots, est-il possible de perdre son salut? La réponse est non, bien sûr, car si c'était le cas, le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'aurait pas déclaré dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » À de nombreux endroits dans les Écritures, l'assurance du salut est donnée à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ par la foi. Pour expliquer ce verset, j'aimerais citer ce passage du livre de John Walvoord. la révélation de Jésus-Christ. Certaines personnes ont indiqué que nous n'avons pas là une déclaration explicite que quiconque peut avoir son nom effacé. Au lieu de cela, nous avons la promesse que son nom ne sera pas effacé à cause de sa foi en Jésus-Christ. Mais cette éventualité existe-t-elle, au moins implicitement? Ceux qui répondent par l'affirmative à cette question suggèrent que le livre de vie n'est pas le livre des sauvés, mais plutôt une liste des personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. En d'autres mots, ce livre contient le nom de tous les hommes et femmes ayant possédé une vie physique. Arrivés au stade adulte et investis de la responsabilité d'accepter ou de rejeter leur sauveur, leur nom est effacé s'ils refusent de l'accepter. Ceux qui l'acceptent, par contre, sont confirmés dans leur position dans le livre de vie. Leur nom est confessé devant le Père et devant les anges célestes. Je pense qu'il s'agit là d'une très bonne interprétation de ce verset. L'Apocalypse accorde beaucoup d'importance à ce livre de vie. On le retrouve cité à plusieurs endroits. Dans chapitre 13, verset 8, chapitre 17, verset 8, chapitre 20, verset 12 et 15, chapitre 21, verset 27, ainsi que chapitre 22, verset 19. Dans ces références, nous trouvons l'idée qu'il existe des gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie et d'autres dont le nom n'y est pas inscrit. Nous reviendrons sur ce sujet, surtout lorsque nous aborderons le dernier verset mentionné dans notre liste au chapitre 22. Certains ont identifié deux livres différents au chapitre 20, verset 12. Ils ont distingué un livre de profession d'un livre de réalité. Ils supposent qu'un nom peut être effacé du livre de profession, mais pas du livre de réalité. D'autres suggèrent que tous les noms sont placés dans le livre de vie au début, mais que certains d'entre eux sont ensuite enlevés. Si une personne ne prend pas de décision à propos de Jésus-Christ, ou si elle le refuse, son nom est enlevé au moment de sa mort. Ces deux options soulèvent de sérieuses objections, tout en retenant certains bons points à leur avantage. Ma position sur la question est simple. Il était déjà étonnant que des gens de l'église de Sardes puissent être sauvés. Et ici, il est dit que certains d'entre eux ne seraient jamais effacés du livre de vie. Il n'a jamais dit que le nom de certains en serait effacé. Il a simplement dit qu'il y aurait des croyants sauvés même à Sardes. Nous devons simplement retenir que l'important est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Je ne crois pas qu'après avoir été sauvé, il soit possible de perdre son salut. Revenons à notre lecture de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 6. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Cette expression revient à plusieurs reprises. Il ne suffit pas d'entendre le message de la parole de Dieu. Il faut en plus entendre l'Esprit de Dieu, nous en donner la signification. La lettre de Jésus-Christ à l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie correspond à ce que j'appelle l'Église du Réveil. Elle a commencé au début du 19e siècle et elle se prolongera jusqu'à l'enlèvement de l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de l'Église qui est retournée à la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le protestantisme et aussi dans le catholicisme romain, nous trouvons une multitude de fidèles qui se tournent vers la parole de Dieu. Nous recevons des messages du monde entier qui montrent que les gens sont impatients d'entendre cette parole. Ils ont faim et soif de l'entendre. Cette catégorie de gens appartient à l'Église de Philadelphie. J'ai visité le site original de l'Église de Philadelphie situé dans ce qui est maintenant la Turquie. C'est maintenant une petite ville assez prospère et située profondément à l'intérieur des terres, à environ 200-250 kilomètres de la côte. L'ancienne ville était construite sur 4 ou 5 collines, ce qui donne un paysage beau à voir. La région est toutefois géologiquement instable. La population autrefois assez dense a quitté la région principalement à cause des tremblements de terre. La guerre a aussi trop souvent dévasté ce beau pays. Lorsque Timurlung et d'autres chefs sont venus de l'Est, ils ont massacré presque toute la population. Pour ces deux raisons. Il n'existe aujourd'hui pratiquement plus de descendants des gens qui vivaient là à l'époque des apôtres. Toutefois, la ville a toujours été habitée depuis sa fondation. Au moment où l'apôtre Jean a écrit ces lignes, La cité était un petit îlot de civilisation au milieu d'un monde barbare, car les Grecs considéraient tous ceux qui n'étaient pas Grecs comme des barbares. Au début, on y parlait le lydien, mais au temps des apôtres, le grec l'avait remplacé. Philadelphie était une colonie grecque typique. On pourrait considérer cette ville comme un poste avancé de la Grèce antique, au milieu d'une culture anatolienne et asiatique. On l'appelait la Petite Athènes, car elle était vraiment grecque, malgré son éloignement de la Grèce. Philadelphie servait de forteresse afin de surveiller et de retarder l'avance d'un envahisseur en route vers l'ouest et qui menacerait, alors, les trois grandes villes situées plus près de la côte, c'est-à-dire Éphèse, Smyrne et Pergame. Les garnisons des villes, comme Philadelphie, avaient donc pour mission de retarder l'avance de l'ennemi et de prévenir les autres villes du danger. Le sol de la région est très fertile. On y trouve des arbres, de lauriers et plusieurs variétés de fleurs magnifiques. On peut y faire pousser pratiquement n'importe quoi, et son vin était particulièrement apprécié. On reconnaît la tête de Bacchus sur les vieilles pièces de monnaie. La ville de l'amour fraternel. Le nom Philadelphie ne vient pas de la Bible. Il est tiré de deux mots grecs. Le premier, philéo, signifie aimer, et le deuxième, Adelphos signifie « frère ». Attalos II, le roi de Pergame, aimait beaucoup son frère Euménès II, qui l'avait précédé sur le trône. Il a donné le nom de Philadelphie à cette autre ville afin de célébrer ce lien fraternel de loyauté. Elle est donc devenue la ville de l'amour fraternel. En 17 après Jésus-Christ, le même tremblement de terre qui a dévasté Sardes a aussi totalement détruit cette ville et plusieurs autres agglomérations lydiennes de la région. Tibère, l'empereur romain à cette époque, a alloué de grosses sommes d'argent pour la reconstruction et elles ont été rebâties. L'église de Philadelphie est la seule avec Smyrne pour laquelle Jésus n'a que de bons mots. Pourquoi? Parce qu'elle s'était tournée vers la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu auparavant, les deux seules églises au-dessus de toute remontrance étaient situées dans les deux seules villes encore en existence, même si les églises ont elles-mêmes disparu. Toutefois, à Philadelphie, le christianisme semble avoir survécu beaucoup plus longtemps car on y trouve les ruines d'une église byzantine datant du 12e ou 13e siècle. Ces ruines ne sont pas le pilier mentionné au verset 12, même si beaucoup de gens le croient. Dans un vieux livre sur les paysages bibliques, on trouve une illustration d'un grand amphithéâtre datant de cette époque. Mais cet amphithéâtre a été récemment complètement détruit, sauf pour un pilier camouflé par les arbres. Apparemment, le gouvernement turc voulait se débarrasser de tout vestige de cette vieille civilisation chrétienne, tout comme leurs ancêtres s'étaient débarrassés des chrétiens de cette région en les massacrant brutalement. Chrétiens et sarrasins se sont battus à Philadelphie pendant les croisades. En 1922, les Grecs et les Turcs s'y sont également battus. Il reste peu de chrétiens à Philadelphie et ils vivent dans la clandestinité, car sinon ils seraient sévèrement persécutés. L'église de Philadelphie a continué son œuvre jusque vers le XIIIe siècle. Elle était située à un endroit stratégique pour devenir une église missionnaire et elle a rempli ce ministère pendant très longtemps. Je lui ai donné le nom d'église du réveil car elle est retournée à la parole de Dieu et elle s'est mise à enseigner la parole de Dieu autour d'elle. Ce courant missionnaire est aussi devenu très actif au début du XVIIIe siècle. Nous en voyons encore des traces aujourd'hui. L'enseignement de la Bible n'a rien de nouveau, mais il semble gagner en popularité dans certains cercles. L'Esprit de Dieu agit dans certaines églises et pousse les enfants de Dieu à témoigner de leur foi. La série d'émissions de radio que vous entendez présentement est le résultat de l'action de Dieu parmi son peuple. Écoutons maintenant son message. Le Dieu saint est véritable. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. L'ange qui reçoit la lettre est le messager humain. Il transmet la parole de Dieu à l'assemblée. Le Seigneur utilise cette méthode dans les sept églises. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Dans chaque message, le Seigneur Jésus tire toujours un aspect de la vision qu'il a auparavant donnée à l'apôtre Jean au chapitre 1er de l'Apocalypse. On se souvient qu'il est apparu comme le Christ glorifié et le souverain sacrificateur qui veille sur ses églises. Voici ce que dit le Saint. Ici, il nous rappelle qu'il est saint. Cette sainteté lui appartenait déjà à sa naissance et à sa mort sur la croix. Aujourd'hui encore, il est saint dans son actuel ministère sacerdotal. Il est déclaré saint avant même sa naissance lors de l'annonciation de l'ange à Marie, que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Luc chapitre 1, verset 35. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et à sa mort, il conservait encore sa sainteté, comme l'indique le livre des Actes, chapitre 2, le verset 27. À ce moment, l'apôtre Pierre, inspiré par l'éruption soudaine du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, annonce au peuple rassemblé que les paroles prophétiques du roi David sont enfin parfaitement accomplies par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En voici la lecture. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. » Notre Seigneur Jésus-Christ était donc saint lors de sa naissance, il l'est encore le jour de sa mort, et il l'est encore aujourd'hui dans son saint office sacerdotal, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, le verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voici ce que dit le véritable. Quelques années auparavant, l'apôtre Jean avait reçu cette autre parole de Jésus, écrite dans son Évangile, l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans ce contexte, la vérité exprime l'idée d'authenticité accompagnée de perfection et de plénitude. Comme nous l'avons vu il y a peu de temps, Moïse ne donnait pas le véritable pain, mais Jésus-Christ est le véritable pain, comme nous le mentionne toujours l'Évangile de Jean, mais cette fois chapitre 6, les versets 32 à 35. Le texte de l'Apocalypse précise « Celui qui a la clé de David ». Nous avons vu que le Seigneur détenait les clés de la mort et du séjour des morts dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 18. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, Jésus-Christ déclare son droit royal en tant que souverain de l'univers. Toujours pendant l'Annonciation à la Vierge Marie, l'ange lui décrit le Saint-Enfant qu'elle portera bientôt. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 32 et 33. « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Notre Seigneur Jésus-Christ s'assoira sur le trône de David devant tous les hommes quand il reviendra sur terre au temps du millénium. Mais déjà aujourd'hui, il est souverain. Il est assis à la droite du Père éternel. Il attend que ses ennemis soient soumis à ses pieds, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 13. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus est celui qui est capable d'ouvrir et de fermer les cœurs. En cela, nous trouvons le courage et la force d'accomplir le mandat qu'il nous a confié dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La puissance de la faiblesse. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte ouverte est la parole de Dieu contenue dans la Bible. Nous avons tiré de ce verset le titre de notre série d'émissions à travers la Bible. Nous avons peu de puissance, mais personne ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte devant nous. L'Église de Philadelphie est celle qui est restée fidèle à la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette Église ne peut pas être identifiée au protestantisme, au catholicisme romain ou aucune dénomination chrétienne. Car ce n'est pas une dénomination d'Église qui nous ouvre les portes du ciel, mais le sang de Jésus-Christ, répandu pour nos péchés selon sa parole. L'Église de Philadelphie représente donc toutes les églises à travers le monde qui reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu, peu importe leur dénomination. Le Seigneur n'a que de bons mots adressés à cette église, contenus dans les sept paroles suivantes. Premièrement, je connais tes œuvres. À l'église précédente, celle de Sardes, cette parole servait de condamnation. Le Seigneur lui reprochait le fait qu'elle ne portait pas de fruits. Rappelons-nous toujours qu'il sauve le croyant afin qu'il porte du fruit. Il est mort pour son Église et il s'attend à ce qu'elle produise des œuvres dignes de ce sacrifice. Relisons une autre fois cette séquence du salut accordé par pure grâce, suivi des bonnes œuvres à accomplir, remarquablement énoncée par l'apôtre Paul dans son épître adressée aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Permettez-moi d'être très direct. Si votre foi ne produit aucune bonne œuvre, posez-vous de sérieuses questions quant à la validité et la sincérité de votre foi. L'apôtre Jacques était un homme de prière et doté d'un bon sens pratique. Écoutons-le dans Jacques chapitre 2, verset 18. « Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Le grand réformateur Jean Calvin a repris cette idée avec cette parole éclairée, mais simple. La foi seule sauve, mais la foi qui sauve n'est pas seule. En d'autres mots, la véritable foi qui sauve doit être suivie d'un cortège de bonnes œuvres. La véritable foi qui sauve produit immanquablement de bonnes œuvres. Deuxièmement, voici, parce que tu as peu de puissance. Dans le texte original, en langue grecque, le mot traduit ici par « puissance » est « dynamis ». La langue française s'en est également servie pour créer le mot « dynamite ». Jésus dit à son église de Philadelphie qu'elle possède peu de puissance. Il s'agissait d'un petit nombre de croyants qui n'attiraient pas de grosses foules, ne possédaient pas de bâtiments imposants ou de programmes performants. L'église de Philadelphie possédait peu de puissance en elle-même, mais elle s'appuyait sur la puissance de son Seigneur Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, cette puissance est disponible pour quiconque croit. Es-tu devenu un croyant qui a placé sa foi en Jésus-Christ seul? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse, chapitre 3, les versets 8 à 13. À vous tous, je vous souhaite bonne lecture.
Merci, Régent. La parole de Dieu. Mes amis, la Bible est la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle est si importante pour nous, comme Régent en a parlé aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de dire ou d'entendre dire « telle ou telle personne a donné sa parole » Si vous savez que cette personne est fiable, vous avez sûrement confiance que ce qu'elle a dit, elle va l'accomplir, n'est-ce pas? Mais même les personnes fiables ne sont pas infaillibles. elles peuvent être malades ou incapables de remplir une promesse. Ou bien il peut y avoir un changement majeur dans leur vie qui fait qu'elles ne sont plus en mesure de faire ce qu'elles avaient réellement l'intention d'accomplir. Mais Dieu, lui, mes amis, est infaillible. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Dans le 18e chapitre de l'Évangile de Luc, au verset 31, il est écrit que Jésus a pris les 12 auprès de lui et il leur a dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Et par la suite, on voit que ce que les prophètes ont annoncé concernant l'arrestation de Jésus et tout ce qui s'est passé jusqu'à sa mort à la croix s'est accompli exactement comme ça avait été prédit. Mes amis, Dieu a réellement inspiré les prophètes et tout ce qu'il a dit par eux s'est accompli ou va s'accomplir dans le futur tel que prédit. Ça vient de la parole de Dieu. Je trouve ça extraordinaire d'avoir la certitude qu'il y a un livre qui ne m'induira jamais en erreur. Et ça me ramène à ce que Réjean nous a partagé aujourd'hui, au sujet de l'église de Philadelphie et de l'église de Smyrne, pour lesquelles Jésus n'avait que de bons mots à dire parce qu'elle s'était tournée vers la parole de Dieu. Et ce qui est encourageant pour nous, les croyants, c'est que l'église de Philadelphie représente toutes les églises à travers le monde qui reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu, peu importe leur dénomination. C'est ce que Réjean nous a mentionné plus tôt. On peut donc en conclure que le Seigneur n'a que de bons mots à dire aux églises d'aujourd'hui qui se tournent vers la parole de Dieu dans toutes les décisions qu'elles ont à prendre, à chaque pas qu'elles ont à faire. Et toi, mon ami, est-ce que tu fréquentes une église qui marche selon les saintes écritures, selon la parole de Dieu? C'est pas nécessaire que le nombre de ses membres soit élevé, mais c'est absolument nécessaire que ceux qui y sont soient des croyants qui mettent leur confiance dans la parole de Dieu. Tout comme Réjean l'a mentionné aujourd'hui au sujet de l'église de Philadelphie, il s'agissait d'un petit nombre de croyants qui n'attiraient pas de grosses foules, ne possédaient pas de bâtiments imposants ou de programmes performants, mais qui possédaient peu de puissance en elle-même et s'appuyaient sur la puissance de son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 1, on peut voir que la parole de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est bel et bien le Seigneur Jésus. Il dit ceci, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mon ami, place ta confiance en Jésus seul, pour le salut qu'il veut te donner, et pour chaque jour de ta vie. Place ta confiance sur ce rocher, Jésus, ce Dieu infaillible, ce Dieu fidèle, que ce qu'il dit, il fait, ce qu'il promet, il l'accomplit. Place ta confiance en Jésus seul. Ne cherche pas ailleurs, tu ne trouveras pas la vérité. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction,
parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.